Bonjour à tous. Je vous invite à prier. Te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous venons de vivre, pour t'honorer, te louer, te célébrer. Et alors maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous te prions d'ouvrir nos cœurs afin que vraiment nous soyons réceptifs et que nous puissions être édifiés. Oui, Seigneur, tu m'as confié ce matin la charge de prêcher, mais je te prie vraiment que ce soit toi qui nous parle, qui nous encourage, qui nous édifie et qui nous exhorte. En Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez déjà vu le titre du message, « Élargis l'espace de ta tente ». Ah ah, la tente. Les vacances ne sont pas tout à fait finies, hein. Il y a encore jusqu'à demain matin, 8 heures pour les élèves. Donc, peut-être que c'est encore le moment d'en parler. Nous nous sommes quittés au début du mois de juillet, alors que chacun s'apprêtait à prendre des vacances reposantes. Est-ce que vous vous en souvenez ? Il était question de voyage. Ceux qui étaient là, ça y est ? Alors, est-ce que vous avez pu reprendre des forces physiques, des forces morales ou spirituelles pour la nouvelle année d'activité qui est devant nous? Avez-vous pris des chemins plats, escarpés, mal balisés ou au contraire faciles à suivre? Vous êtes-vous échappé vers une maison de famille, un hôtel, une location de vacances ou un camping? Et voilà, en évoquant le camping, cela me rappelle quelques vacances lorsque nous étions plus jeunes, Hervé et moi. Je vous ai parlé d'un camp biblique en Angleterre dans mon dernier message. Nous y avions fait du camping. Et justement, nous pourrions peut-être parler camping en lisant le texte biblique qui sert de mot d'ordre à notre fédération d'église pour l'année 2023. Il s'agit d'Ésaïe 52, verset 15. Pardon, il s'agit d'Ésaïe 54, verset 2. Mais j'aimerais ce matin lire avec vous les versets 1 à 3. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, cris d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare: les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Donc le verset principal, c'est le verset 2, mais les trois versets que j'ai cités vont nous aider dans notre réflexion. Alors dans une première partie, nous allons regarder d'autres passages de la Bible qui nous parlent de tente. Ensuite, je vous propose de chercher à comprendre de quelle tente Ésaïe nous parle. Enfin, nous nous demanderons dans quel but l'espace de notre tente doit être élargi. Alors, des tentes dans la Bible, il en est question à divers endroits. Et la première, le tabernacle, c'est la tente par excellence. Ce sera le lieu pour rendre un culte à Dieu. C'est détaillé dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 26. Et Abraham Park, dans son ouvrage « Le tabernacle et l'arche de l'Alliance », déclare « Pendant 486 ans, depuis son achèvement le premier jour du mois en 1445 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'achèvement du temple de Salomon, le tabernacle fut le lieu saint de la présence divine de Dieu et le centre où les Israélites pouvaient vivre leur foi, un lieu de rencontre avec Dieu. En réalité, le tabernacle nous dirige vers le Christ et illumine l'administration mystérieuse et merveilleuse de la rédemption. » Et on lit dans Hébreux 8, les versets 1 à 2, « Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci, qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône de Dieu majestueux. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Alors, si je vous cite le tabernacle ce matin, ce n'est pas pour détailler toute cette tente, tout le campement qui l'entourait, qui sont décrits par Dieu à Moïse. Vous pouvez vous-même retrouver tout cela dans le livre de l'Exode. Et je veux bien vous prêter ce livre que je vous ai montré. Ça a décrit les différentes parties, les ustensiles qu'il contenait. Mais ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est de comprendre qu'une symbolique particulière entourait chacun des éléments de ce tabernacle et que cela nous mène directement à Jésus-Christ. C'est quand même captivant d'imaginer que Dieu mettait déjà en modèle, en parole, en place, dès l'Ancien Testament, pour notre compréhension, tout ce que Jésus allait apporter sur terre, tout ce que cela allait signifier et impliquer. Mais si je mets la description du tabernacle en perspective avec notre texte du jour, je constate que le tabernacle avait des dimensions bien établies et il n'était pas possible de les modifier. Alors comment élargir la tente ? Cela peut nous servir de référence pour comprendre le sens de la vie et de la mort de Jésus, mais ce n'est pas cette tente-là qu'il nous faudra élargir. Une autre tente est citée dans l'Ancien Testament, et c'est à l'occasion de la fête de Soukhot. Vous connaissez cette fête ? C'est la fête des tentes, la fête des cabanes. C'est cité dans Lévitique 23, je vous lirai les versets 42 et 43. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette fête avait lieu après les récoltes. C'était l'occasion de réjouissance et de sacrifice apportés devant Dieu pour le remercier de ses bénédictions. Les Israélites devaient alors construire des cabanes, et c'est décrit dans la Bible avec des éléments bien particuliers, à l'aide de rameaux d'arbres touffus, de saules des rivières et de branches de palmiers. Cela afin que chacun se souvienne que le peuple d'Israël avait habité sous des tentes à sa sortie d'Égypte. Cette fête leur rappelait alors qu'ils n'habitaient pas dans des demeures luxueuses, mais que Dieu prenait soin d'eux malgré tout. Ils avaient nourriture et eau en quantité suffisante. Elle est toujours fêtée. Alors j'ai un peu cherché, et cette année ça va être du vendredi 29 septembre au vendredi 6 octobre. Pour nous, nous avons du mal à nous imaginer comment elle peut être vécue. Alors, j'ai cherché quelques vues. Donc là, vous voyez une cabane dans un immeuble qui est accroché à l'étage, dans le balcon. Ou bien en plein milieu de la place, les immeubles autour, et puis on va dans ces lieux peu luxueux et des Juifs qui célèbrent. Alors, j'ai trouvé les images intéressantes parce que pour nous, c'est bien de nous rappeler que tout n'est pas toujours au top dans nos vies. Ce n'est pas le confort ou le bien-être que nous devons rechercher, mais Dieu, tout simplement, la protection que lui seul peut nous apporter, le soin que lui seul sait nous prodiguer. Et même si cela ne correspond pas aux critères de niveau de vie de notre société. En dernier lieu, j'aimerais vous proposer un texte de la Nouvelle Alliance qui nous parle de tente. Et c'est notre propre corps qui est décrit comme une tente. En 2 Corinthiens 5, les versets 1 et 2, nous lisons « Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est de nature céleste. » Cette tente est périssable et nous sommes sur terre en attendant de rejoindre une demeure éternelle, une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Cela nous conforte dans la pensée que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Et en effet, une tente n'est pas une demeure définitive, mais un abri portable pour pèlerins et voyageurs. Et nous pouvons vraiment vivre pour Dieu en le servant avec cet état d'esprit migrateur. Et nous sommes dans la saison où nous voyons nombre d'oiseaux quitter nos contrées, qui vont devenir trop froides pour eux. Ils ne s'embarrassent pas de beaucoup de bagages pour voyager. Leurs nids, leurs habitations sont provisoires. Ils en construiront à nouveau au printemps prochain. Nous, les êtres humains, nous ne réfléchissons pas en ces termes. Mais du point de vue spirituel, c'est dommage. Nous nous attachons à des rites, des façons de faire que nous croyons bonnes. Est-ce que parfois Dieu ne nous encouragerait pas à muer pour grandir ? Notre tente a besoin de s'adapter à notre nouvelle corpulence d'enfant de Dieu. Alors, dans un deuxième temps, revenons au texte et cherchons de quelle tente il est question. Ésaïe nous interpelle. Élargis l'espace de ta tente. Alors, il part d'abord d'un triste constat au verset 1. Jérusalem, personnifiée sous les traits d'une femme délaissée, est comme une ville morte où ne naît pas d'enfant ou plus d'enfants vigoureux. Nous pourrions étendre cette comparaison à certaines de nos communautés où l'on cherche à maintenir ce qui existe parce que ça a bien fonctionné jusque-là, sans chercher à s'adapter aux mentalités des personnes qui évoluent autour de nous. Certains se disent que ce sont les autres qui doivent changer. Alors attention, comprenez-moi bien, je ne viens pas vous dire ici que nous devons changer quoi que ce soit à la parole de Dieu, mais nous pouvons évoluer dans nos façons de la présenter aux personnes qui nous entourent. Elle ne change pas, elle, mais les hommes et les femmes de ce monde, eux, varient dans leurs valeurs, dans leur moralité, dans leur façon de considérer la vie. À nous d'être imaginatifs pour capter leur attention. À l'image de ces personnes qui voulaient installer un abri en Turquie, ils n'ont pas essayé de changer l'arbre de place. Ils se sont adaptés à lui. En même temps, le prophète, dans le premier verset, encourage à la joie, car tout va changer. Donc, un état de stagnation, de repli peut-être dans une communauté ne doit pas décourager, mais au contraire, nous devons être pleins de fougue. Nous pouvons nous réjouir parce que nous ne sommes pas délaissés. Dieu a préparé les conditions pour que la vie revienne là où elle semblait avoir disparu. N'oublions pas que ces versets suivent immédiatement le chapitre 53 où Ésaïe prophétise sur la venue du Messie. Alors que beaucoup étaient dans l'attente de la délivrance, Ésaïe encourage Jérusalem à se préparer pour toutes les personnes qui vont revenir à Dieu. Si parfois nous sommes découragés, nous voudrions voir les choses avancer plus vite dans notre vie, dans notre Église, ne baissons pas les bras et réjouissons-nous. Sachons discerner les temps meilleurs à venir. Et c'est alors qu'Ésaïe nous demande d'élargir l'espace de notre tente. Puisqu'il s'adresse à la ville de Jérusalem et donc à ses habitants, nous pouvons bien imaginer qu'il fait allusion aux endroits dans lesquels nous vivons, aussi bien physiquement que spirituellement. Élargir l'espace de notre tente, et vous voyez, ça, cette vue me plaisait parce que c'est une tente, et on a l'impression qu'elle va s'agrandir. Élargir l'espace de notre tente revient à nous ouvrir aux autres, ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et cette idée de mouvement d'agrandissement est très intéressante. La tente ne doit pas rester immuablement telle qu'elle a été montée. On peut la modifier pour l'élargir, la faire grandir. Et la tente verte, c'est le même modèle que la tente blanche, mais plusieurs modules qui peuvent s'accrocher les uns aux autres. Ça nous donne une bonne image de la façon dont on peut s'agrandir. C'est ce que nous déclare le verset 2. Il nous encourage à déployer largement les toiles qui nous abritent et à tout faire pour les agrandir. Mais À ce moment-là de nos réflexions, j'aimerais partager deux aventures personnelles. Comme je l'ai déjà dit, au début des années 80, nous avons participé, Hervé et moi, à un camp biblique en Angleterre. Nous ne pouvions pas acheter de matériel de camping, jeunes mariés, on n'avait pas beaucoup de moyens, et on a emprunté la tente des parents d'Hervé. Donc c'est ce genre de modèle, ce n'est pas celle-là exactement. Nous l'avons installée et déployée pour nous abriter. Et nous avons passé une magnifique semaine en Angleterre sous la pluie, en compagnie de centaines de chrétiens. Nous nous sommes réjouis d'être abrités par la toile qui nous avait été prêtée. Heureusement, la pluie s'est arrêtée et on a pu replier la toile sèche. Et puis, nous avons emprunté la même tente 15 ans plus tard. Nous l'avons installée dans un camping pour quelques jours, du côté de Saint-Palais, sur mer. Et nous étions en vacances avec nos enfants qui étaient alors ados. Sauf que la tempête est arrivée et la tente a bien pris l'eau. Et nous avons même dû nous réfugier ailleurs pendant cette nuit-là. Et quand même, il y a une petite leçon. Ça nous montre que si nous ne sommes pas attentifs à l'état de notre tente, et je ne parle pas que de cette tente en toile, mais de notre foi personnelle, de l'état de notre église, par exemple, de notre maison aussi, si tout n'est pas en ordre chez nous, nous risquons d'avoir des problèmes. Il faut veiller constamment à ne pas s'éloigner de Dieu, à connaître et à respecter sa parole. Il nous aurait fallu vérifier s'il était nécessaire d'imperméabiliser cette toile de tente pour qu'elle reste efficace. Alors, est-ce que votre tente prend l'eau ? Avant de l'élargir, il faut s'assurer de son efficacité à vous abriter et à en abriter d'autres. Et cette exhortation sur la solidité se retrouve aussi dans le verset 2, dans ces quelques mots. À la fin du verset 2, il est écrit « Assure tes piquets ». Donc il ne faut pas faire n'importe comment. On a vu dans la première partie de notre réflexion des tentes construites sur des bases bien précises. Le tabernacle en est une. À l'aide de matériaux précis, Dieu a donné des instructions claires à Moïse. Et grâce à cela, Moïse a pu faire fabriquer tout ce qui était exactement nécessaire pour que cette tente serve longtemps. Et il y a plusieurs années, effectivement, cette règle existait. Hein, pour que la toile de tente soit toujours efficace, il fallait l'imperméabiliser régulièrement. Lorsque notre tente a pris l'eau, les enfants voulaient directement rentrer à la maison, après seulement une nuit de camping. C'était leur première nuit de camping. Mais c'était une bonne leçon. L'utilisation d'une tente répond à des critères précis, notre vie chrétienne aussi. Il faut connaître les instructions, les commandements de Dieu. Si on préfère s'en affranchir, on aura du mal par la suite à élargir l'espace de notre tente. Alors nous avons vu notre tente personnelle, corporelle, la tente qu'est l'Église. Mais pourquoi faut-il élargir l'espace de notre tente ? Alors, j'ai réfléchi à l'inverse. Il ne faut pas élargir l'espace de la tente pour avoir plus de place pour nous-mêmes. Ça, c'est une démarche égoïste et quelque peu autodestructrice. Si nous avons plus de place seulement pour nous-mêmes, nous accumulons des choses inutiles là où d'autres pourraient s'installer. Ou bien nous accumulons des bénédictions sans en faire profiter les autres. Et nous risquons bien de voir notre vie perdre de sa saveur. Et ça m'a fait penser à un texte que vous connaissez certainement. Luc au chapitre 12, les versets 16 à 20. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Alors souvent, nous interprétons ce texte comme la condamnation par Dieu du fait d'être égoïstement riche matériellement. Mais si nous pouvions aussi considérer la richesse spirituelle, garder tout ce que nous savons, tout ce que nous vivons par et pour Dieu, pour nous seuls, n'est pas plus acceptable. Finalement, c'est à la lecture du verset 3 que nous trouvons la réponse. Ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires, pouvons-nous y lire. Les croyants de Jérusalem qui auront reconnu le Messie pourront à leur tour aller vers des nations étrangères, partager leur foi dans le Dieu unique et les inviter à habiter avec eux. Cette image de la femme délaissée qui est restaurée dans sa dignité, qui contribue à l'agrandissement du royaume de Dieu est si belle. Pour moi, elle est empreinte de paix. Ce n'est pas une croissance qui se passe dans la lutte, mais dans l'amour, le souci de partager et permettre à d'autres de s'abriter sous la protection de Dieu. Il en est toujours de même pour nous aujourd'hui. D'autres vont nous rejoindre. Nous devons être prêts à les accueillir pour leur montrer Jésus. Alors ça, c'est de la théorie. Mais vous vous demandez peut-être dans la pratique, qu'est-ce que ça peut signifier ? J'ai réfléchi à des exemples concrets et je vais vous en partager deux ce matin. Le premier, c'est entraide le relais. Lorsque nous sommes revenus de mission du Cameroun, Hervé devait trouver un nouveau travail. Et c'est ainsi que nous avons découvert l'association Entraide le Relais à Strasbourg. Au départ, il n'y avait pas d'association. Il y avait juste des amis chrétiens de différentes églises, des 4-5. Ils avaient à cœur de mettre en pratique la parole de Dieu qui demande de prendre soin de l'étranger, du pauvre, du malheureux, à l'exemple du bon samaritain. C'est ainsi qu'ils ont, entre guillemets, agrandi leur maison pour accueillir des personnes qui n'avaient plus rien. Bien sûr, à ce moment-là, ils n'ont pas fait de travaux, mais ils ont fait de la place pour que celui qui était dans le besoin soit accueilli, aux côtés de leur épouse, de leurs enfants. Et petit à petit, ils ont vu la nécessité de vraiment élargir l'espace de leur tente. Accueillir sous leur toit n'était plus suffisant. Une association est née, avec comme devise cette fameuse parabole du bon samaritain. Encore aujourd'hui, alors qu'ils reçoivent des subventions de l'État, c'est toujours le texte du bon samaritain qui est dans les statuts. Les fondateurs sont toujours là pour diriger l'association, et de nombreux lieux de vie ont vu le jour, permettant d'accueillir toujours plus de personnes et de familles. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez retrouver plus de renseignements sur le site de cette association. Et puis, agrandir l'espace de notre tente, ça peut ne pas fonder une association, à nous d'être imaginatifs, mais je voudrais vous partager ce que Loïs Minard a partagé avec moi il y a quelques jours. Pour la plupart, vous savez que Loïs, avec son mari Nathan, sont missionnaires au Nord Cameroun, à Garoua. Au départ, elle est partie pour aider au centre technique de Garoua pour les formations en couture, parce qu'elle est styliste. Dieu avait répondu à sa prière. « Seigneur, je veux que mon métier puisse te servir. » Et il y a quelque temps, elle a élargi cette prière en demandant simplement « Seigneur, sers-toi de moi. » Et elle témoigne ainsi. Cela a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Je me suis d'abord retrouvée dans un centre d'accueil pour enfants en détresse. J'ai été amenée à travailler dans des écoles maternelles. Je me suis retrouvée en stage dans l'un des plus grands services de maternité de Garoua. Ah, il y a une photo qui n'est pas passée. À prier avec une future maman en situation de pré-éclampsie sévère. Loïs a élargi l'espace de sa tente. Elle a pu commencer à aider dans des domaines pour lesquels elle n'avait pas de formation. Alors, vous pourriez dire que sur le champ missionnaire, c'est tellement plus facile, il n'y a pas toutes les règles qu'il y a en France. Mais je vous répondrai que Hervé, il est devenu directeur de l'association Entraide le Relais. Il n'avait aucune qualification, pour ce qui est des conditions d'exercice en France, pour ce poste. Mais la condition du recrutement était qu'il fasse la formation adéquate. Et Dieu l'a aidé à réussir avec succès. Il a mené de front la direction de l'association et les études pour obtenir le diplôme d'État de directeur d'établissement social et médico-social. Pourtant, à l'origine, il est ingénieur en bâtiment. Mais voilà, pendant 3 ans, il a fait cela, les études. Ce n'était pas évident, mais pendant 3 ans, j'ai eu un jeune mari étudiant à nouveau. Mais voilà, lorsque nous sommes prêts à élargir l'espace de notre tente, Dieu aide à assurer les piquets. Alors, en conclusion, c'est un petit défi que j'aimerais vous lancer. Une nouvelle année d'activité s'ouvre devant nous. Les enfants reprendront l'école demain ou dans la semaine, selon les emplois du temps. Les parents ont repris le travail. À l'Église, chacun reprend son rôle, ses responsabilités. Voulons-nous vivre selon ce train-train quotidien, semaine après semaine? Ou bien voulons-nous évoluer, nous renouveler, afin de mieux connaître notre Sauveur et de mieux le servir? Voulons-nous encore et toujours élargir l'espace de notre tente dans les domaines que Dieu nous montrera? Je vous laisse méditer sur ces questions en relisant notre texte du jour. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, cris d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la jeune mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Amen.